Chapitre 8. Bayerisch Eisenstein. Jeudi, 18 décembre 1980. Tony Harrod et Maria Chen prirent la direction du nord en sortant de Munich. Passèrent près de Deggendorf et de Regen, puis s'enfoncèrent dans la région montagneuse et forestière située près de la frontière tchèque. Harrod n'avait aucune pitié pour sa BMW de location. Il changeait de vitesse avec nervosité pour négocier les virages en dérapage contrôlé, accélérant jusqu'à 120 km/h dans les lignes droites. Même la concentration nécessitée par cette activité ne suffisait pas à dissiper la tension consécutive au long voyage en avion. Il avait tenté de dormir durant cette interminable traversée de l'Atlantique, mais il n'avait pu oublier une seule seconde qu'il était enfermé dans un tube fragile et pressurisé, suspendu à des milliers de pieds au-dessus de l'océan. Harrod frissonna, poussa le chauffage de la BMW et doubla deux voitures. À mesure qu'il prenait de l'altitude, la neige tapissait les champs et s'amoncelait au bord de la route. Deux heures plus tôt, alors qu'il sortait de Munich sur une autobahn encombrée, Maria avait étudié sa carte routière Shell et s'était exclamée « Ah, Dachau n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. Et alors ?» Et alors, c'est là que se trouvait un de ces camps de la mort, là où on envoyait les Juifs pendant la guerre. Et alors, c'est de l'histoire ancienne, bordel. Pas si ancienne que ça. Harrod avait pris une sortie numérotée 92, échangeant une autobahn encombrée contre une autre. Il prit la file de gauche et l'aiguille du compteur se maintint à 100. « Quand êtes-vous né ? » demanda-t-il. « En 1948. »« Ça ne sert à rien d'imaginer ce qui a pu arriver avant votre naissance. C'est de l'histoire ancienne. » Maria Chen s'était tue et avait contemplé le ruban glacé de l'Isard. Une lumière grise tombait du ciel de cet après-midi finissant. Harrod jeta un regard à sa secrétaire et se rappela leur première rencontre, 4 ans plus tôt, durant l'été 1976. Alors que Harrod se trouvait à Hong Kong pour convaincre les frères Foy de financer un film de kung-fu débile que Willy voulait produire. Harrod avait été ravi de quitter les USA, plongé dans la folie du bicentenaire. Le plus jeune Foy l'avait accompagné dans une boîte de Kowloon. Quelque temps s'était écoulé avant que Harrod s'aperçoive que le nightclub où il se trouvait, situé au 8e étage d'un gratte-ciel de Kowloon, était en fait un bordel, et que les jeunes femmes superbes et sophistiquées qui leur tenaient compagnie étaient des putes. Harrod avait perdu tout intérêt pour elle à ce moment-là, et il aurait quitté les lieux sur le champ s'il n'avait pas remarqué une superbe Eurasienne assise toute seule au bar, dont le regard exprimait une indifférence trop profonde pour être feinte. Lorsqu'il demanda des renseignements sur elle à Two Bit Foy, l'Asiatique obèse eut un large sourire et dit « Ah, très intéressant. Une histoire très triste. Sa mère était une missionnaire américaine, son père un professeur sur le continent. Sa mère est morte peu de temps après être venue à Hong Kong. Son père aussi est mort. Maria Chen est restée ici et elle est devenue un mannequin très célèbre et très cher. »
« Un mannequin ?» dit Harrod. « Qu'est-ce qu'elle fiche ici ?»
Foy haussa les épaules et sourit de nouveau, exhibant sa dent en or.
« Elle gagne beaucoup d'argent, mais ça ne lui suffit pas. Elle a des goûts très coûteux. Elle veut aller en Amérique. C'est une citoyenne américaine, mais ses goûts coûteux l'empêchent d'y aller. »
Harrod hocha la tête.
« Cocaïne ?»«
Héroïne, »
dit Foy en souriant.
« Vous aimeriez la rencontrer ?»
Harrod répondit que oui. Une fois les présentations faites, lorsqu'ils se retrouvèrent tout seuls au bar, Maria Chen dit
« J'ai entendu parler de vous. Vous avez bâti votre carrière sur vos mauvais films et vos mauvaises manières. »
Harrod acquiesça de la tête.
« Et j'ai entendu parler de vous, » dit-il. « Vous êtes une pute accro à l'héroïne. »
Il vit venir la gifle et tendit son esprit pour la bloquer. En vain. La claque fit un bruit retentissant. Toutes les personnes présentes se turent et se tournèrent vers eux. Lorsque les conversations reprirent, Harold sortit un mouchoir de sa poche et le posa sur sa bouche. La bague de l'Eurasienne lui avait coupé la lèvre. Harold avait déjà rencontré des neutres, des hommes et des femmes sur lesquels le talent n'avait aucune prise. Mais rarement, très rarement, et jamais dans une situation où son ignorance s'était retournée contre lui. « Bien, » dit-il, « les présentations sont faites. Maintenant, j'ai une proposition à vous faire. » « Rien de ce que vous pourrez me proposer ne m'intéressera. » La sincérité de Maria Chen ne faisait aucun doute, mais elle resta assise sur son tabouret de bar. Harold acquiesça. Il réfléchissait à toute allure, repensant à l'inquiétude qu'il éprouvait depuis maintenant des mois. Willy le terrifiait. Le vieillard n'utilisait son talent que rarement, mais son pouvoir était incontestablement plus développé que le sien. Même si Harold passait des années à conditionner un assistant, Willy n'aurait aucune difficulté à retourner ce pion contre lui. Harold se sentait de plus en plus angoissé depuis que ce foutu Island Club l'avait convaincu de devenir un des proches du vieil assassin. Si Willy apprenait la vérité, il utiliserait le premier instrument venu. « Je vous offre un travail aux USA, » dit Harold. « Vous serez ma secrétaire personnelle et la secrétaire de direction de la compagnie que je représente. » Maria Chen le toisa du regard. Ses superbes yeux marrons n'exprimaient aucun intérêt. « 50 000 $ américains par an, » ajouta-t-il, « plus d'autres avantages. » Elle ne scia même pas. « Je gagne beaucoup plus que ça ici à Hong Kong. Pourquoi échangerais-je ma carrière de mannequin contre un boulot de secrétaire mal payé ?» La façon dont elle insista sur le mot « secrétaire » traduisait clairement le mépris que lui inspirait cette proposition. « Les autres avantages ?» Comme Maria Chen restait muette, Harold poursuivit à voix basse. « Une réserve permanente de ce dont vous avez besoin. Vous n'aurez plus à faire les démarches nécessaires pour vous approvisionner. » Cette fois-ci, Maria Chen scia. Son assurance la déserta comme un voile arraché à son visage. Elle baissa les yeux. « Réfléchissez-y, » reprit Harold. « Je suis à l'hôtel Victoria et Albert jusqu'à mardi matin. » Elle ne leva pas la tête lorsque Harold sortit du nightclub. Le mardi matin, il se préparait à partir, le portier avait déjà pris ses valises, et il examinait une dernière fois son reflet dans la glace, achevant de boutonner sa veste de safari, taillée dans le plus pur style République bananière, lorsque Maria Chen apparut sur le seuil. « Quelles seront mes obligations en dehors de celles d'une secrétaire ?» demanda-t-elle. Harold se retourna lentement, résista à son envie de sourire et haussa les épaules. « Toutes celles que je pourrais vous indiquer. » Il daigna sourire. « Mais pas celles auxquelles vous pensez. Je n'ai pas besoin de pute. » « J'accepte, mais à une condition. » Harold la regarda sans rien dire. « L'année prochaine, il faut que je m'arrête. » Une pellicule de sueur apparut sur son front lisse. « Que je... comment dit-on en Amérique ? Que je décroche. Et quand je vous le demanderai, le moment venu, vous devrez prendre des dispositions. » Harold réfléchit durant une minute. Il ne savait pas si une Maria Chen libérée de l'influence de la drogue servirait ses buts. Mais il ne croyait pas vraiment qu'elle tenterait de décrocher. Si c'était le cas, il aviserait à ce moment-là. En attendant, il aurait à son service une secrétaire belle et intelligente à laquelle Willy ne pourrait pas toucher. « Entendu, » dit-il. « Maintenant, il faut prendre les dispositions nécessaires pour que vous obteniez votre visa. » « C'est inutile. » Maria Chen s'écarta pour le laisser passer et lui emboîta le pas en direction de l'ascenseur. « Toutes les dispositions ont déjà été prises. » 30 kilomètres après Degendorf, ils approchèrent de Regen, une cité médiévale bâtie à l'ombre de pics rocheux. Alors qu'ils descendaient une route de montagne vers ses faubourgs, Maria Chen désigna l'endroit où, l'espace d'un instant, les phares de la voiture avaient éclairé une planche ovale plantée sous les arbres au bord de la chaussée. « Vous avez remarqué ces trucs près de la route ?» demanda-t-elle.
« Ouais, » dit Harrod en rétrogradant pour négocier un virage en épingle à cheveux.
« Selon le guide, c'est sur ces planches qu'on portait les cercueils lors des enterrements. On y inscrivait le nom du défunt, ainsi qu'une invitation à prier pour le salut de son âme. »
« Charmant !»
La route traversa une ville. Harrod entrevit les lampadaires perçant la pénombre hivernale, des pavés mouillés dans les rues latérales, et un édifice sombre dressé au-dessus de la ville sur une crête boisée. Ce château a jadis appartenu au comte Hunt, lut Maria Chen. Il a ordonné que son épouse soit enterrée vivante après qu'elle eut noyé leur bébé dans la rivière. Harrod resta muet.
Une curieuse histoire, n'est-ce pas? Dit Maria Chen.
Harrod rétrograda et tourna à gauche, suivant l'autoroute 11 en direction de la montagne. La neige était visible à la lueur des phares. Harrod tendit une main pour s'emparer du guide de Maria Chen et pour éteindre la veilleuse qui lui permettait de lire.
« Rendez-moi un service, » dit-il. « Fermez votre gueule. »
Il était 9 heures passées lorsqu'ils arrivèrent au petit hôtel de Bayerisch-Eisenstein, mais leur chambre les attendait, et le dîner était encore servi dans une minuscule salle contenant à peine 5 tables. Celle-ci était chauffée par une immense cheminée qui fournissait également la quasi-totalité de l'éclairage. Ils mangèrent en silence. Bayerisch-Eisenstein avait paru minuscule et désert à Harrod, d'après les quelques aperçus qu'il en avait eus avant de trouver l'hôtel. Une grande rue, quelques immeubles de style bavarois blottis dans une étroite vallée entre des collines noires. Cet endroit lui rappelait une ville frontière dans les Catskills. À l'entrée de l'agglomération, une pancarte les avait informés qu'ils n'étaient qu'à quelques kilomètres de la frontière tchèque. Lorsqu'ils regagnèrent leurs chambres adjacentes au 2e étage, Harrod dit
« Je vais descendre jeter un coup d'œil au sauna. Préparez les affaires pour demain. »
L'hôtel comprenait 20 chambres, occupées en majorité par des skieurs de fond venus explorer les pistes de la Grosse Harbour, une montagne haute de 1400 mètres située quelques kilomètres plus au nord. Plusieurs couples étaient assis dans le petit salon du rez-de-chaussée, buvant de la bière ou du chocolat chaud, et riant de ce rire jovial et typiquement allemand qui semblait toujours forcé à Harrod. Le sauna se trouvait au sous-sol et n'était guère plus qu'un caisson en cèdre muni de bancs. Harrod augmenta la température, ôta ses vêtements dans le minuscule vestiaire et pénétra dans la chaleur vêtu d'une simple serviette. Il sourit en lisant la pancarte rédigée en allemand et en anglais. Les visiteurs sont avisés que les vêtements ne sont pas obligatoires dans le sauna. De toute évidence, certains touristes américains avaient été surpris par l'absence de pudeur des Allemands en pareilles circonstances. Ils s'étaient presque assoupis lorsque les 2 filles entrèrent. Elles étaient jeunes, pas plus de 19 ans, allemandes et gloussantes. Elles n'eurent aucune réaction en voyant Harrod. « Guten Abend !» dit la plus grande des 2 blondes. Elles gardèrent les serviettes dont elles s'étaient enveloppées. Harrod portait également une serviette. Il ne dit mot, et les yeux mi-clos observa les 2 filles. Il se rappela le jour où, 3 ans plus tôt, Maria Chen lui avait annoncé que le moment était venu pour lui de l'aider à décrocher.
« Pourquoi ferais-je cela ? » avait-il dit.
« Parce que vous l'avez promis, » avait-elle répliqué.
Harrod l'avait regardé fixement en pensant au mois de tension sexuelle qu'il avait enduré, à la façon dont elle repoussait froidement la moindre de ses avances, et à la nuit durant laquelle il était allé doucement devant la porte de sa chambre et l'avait ouverte. Il était 2 heures passées, mais elle était en train de lire au lit. Lorsqu'il était apparu sur le seuil, elle avait calmement reposé son livre,
avait sorti un calibre 38 du tiroir de sa table de nuit, l'avait calé sur ses cuisses et avait demandé
« Oui, qu'y a-t-il, Tony ?»
Il avait secoué la tête et battu en retraite.
« D'accord, chose promise, chose due, » dit Harold. « Que voulez-vous que je fasse ?»
Maria Chen le lui expliqua. Elle n'avait pas quitté la cave fermée à clé pendant 3 semaines. Dans un premier temps, elle avait déchiré de ses ongles le capitonnage qui l'avait aidé à installer sur les murs et sur la porte. Elle avait hurlé, tapé sur les murs, déchiqueté le sommier et le matelas auquel se réduisait le mobilier de la pièce, puis hurlé de nouveau. Harold, assis dans la salle de projection adjacente à la cave, était le seul à entendre ses hurlements. Elle avait refusé de manger les repas qui lui glissaient sous la porte. Au bout de 2 jours, elle avait cessé de se lever, restant étendue sur le matelas, recroquevillée sur elle-même, tantôt à transpirer, tantôt à trembler, gémissant faiblement pour se mettre l'instant d'après à hurler d'une voix inhumaine. En fin de compte, Harold avait passé 3 jours et 3 nuits à ses côtés dans la pièce minuscule, l'aidant à aller aux toilettes quand elle arrivait à se lever, la lavant et prenant soin d'elle quand elle n'y arrivait pas. Finalement, le 15e jour, elle avait dormi pendant 24 heures, puis Harold l'avait lavée et avait pansé les plaies qu'elle s'était infligées. En épongeant ses joues pâles, ses seins parfaits et ses cuisses en sueur, il avait repensé à toutes les fois où il avait vu son corps vêtu de soie et regretté amèrement qu'elle soit neutre. Après l'avoir baignée et séchée, il lui avait fait enfiler un pyjama propre, avait changé les draps et les couvertures, puis l'avait laissé dormir. Elle avait émergé de la cave la 3e semaine. Son maintien et ses manières légèrement distantes étaient aussi intactes, aussi parfaits que ses cheveux, sa mise et son maquillage. Ni l'un ni l'autre n'avait jamais parlé de ces 3 semaines. La plus jeune des 2 Allemandes gloussa, leva les bras au-dessus de sa tête et murmura quelque chose à son ami. Harold les observa à travers les nuages de vapeur. Ses yeux noirs étaient 2 trous sombres sous ses paupières lourdes. L'aînée des 2 filles cligna des yeux à plusieurs reprises et dénoua sa serviette. Ses seins étaient lourds et fermes. La cadette eut un mouvement de surprise, les bras toujours levés. Harold vit une masse de poils drus sous ses bras et se demanda pourquoi les Allemandes ne se rasaient pas les aisselles. La cadette fit mine de dire quelque chose, se ravisa et dénoua sa serviette. Ses doigts étaient hésitants, comme s'ils étaient à moitié endormis ou peu habitués à cette tâche. La serviette tomba alors que l'aîné tendait les mains vers les seins de sa sœur. « Tes sœurs !» comprit Harold, alors qu'il plissait les yeux pour mieux savourer le flot de sensations. « Kirsten et Gabi. » Ce n'était pas facile avec 2 sujets. Il devait constamment aller de l'une à l'autre, contrôlant la première tout en veillant à ce que la seconde ne lui échappe pas. C'était comme s'il avait joué au tennis contre lui-même. Ce genre de partie ne devait pas se prolonger. Mais les parties les plus courtes sont parfois les meilleures. Harold ferma les yeux et sourit. Lorsqu'il remonta, il trouva Maria Chen près de la fenêtre, en train de regarder un groupe de choristes chanter des chants de Noël autour d'un traîneau tiré par un cheval. Elle se retourna alors que des rires et des fragments de « O Tannenbaum » emplissaient l'air glacé. « Où est-il ? » demanda Harold. Il était vêtu d'un pyjama en soie et d'un peignoir doré. Ses cheveux étaient mouillés. Maria Chen ouvrit sa valise et en sortit un pistolet automatique de calibre 45. Elle le posa sur une table basse. Harold prit l'arme à feu, fit mine de tirer et hocha la tête.
« Je me doutais qu'on vous emmerderait pas, la douane. Où est le chargeur ?»
Maria Chen sortit 3 magasins de sa valise et les posa sur la table. Harold fit glisser l'arme sur le verre jusqu'à ce qu'elle s'immobilise près de la main de sa secrétaire.
« Ok, » dit-il. « Voyons un peu la gueule qu'a ce foutu pays. »
et il déroula une carte topographique sur la table, calant ses quatre coins avec le pistolet et les trois chargeurs. Son index se posa sur un groupe de points situés de part et d'autre d'une ligne rouge. « Bayerisch Eisenstein, nous sommes ici. » Son doigt se planta 2 centimètres plus au nord-ouest. « La propriété de Willy est ici, derrière cette colline. »«
La grosse harbour, » dit Maria Chen.
« Peu importe, ici, en plein milieu de la forêt,
le Bayerischer Wald, » dit Maria Chen.
Harold la regarda en silence pendant 2 bonnes minutes, puis se repencha sur la carte. « Ça fait partie d'un parc national, mais c'est quand même une propriété privée. N'importe quoi. »
« Il existe des propriétés privées dans l'enceinte des parcs nationaux américains, » lui rappela Maria Chen. « De plus, cette propriété est censée être vide. »«
Ouais. » Harold enroula la carte et se rendit dans sa chambre par la porte de communication. 1 minute plus tard, il revenait avec un verre de scotch prélevé sur la bouteille qu'il avait achetée à la duty-free shop de Heathrow.
« Bien, » dit-il. « Vous savez ce que vous avez à faire demain matin ?»«
Oui. » dit Maria Chen.
S'il n'est pas là, ça baigne. S'il est là, s'il est tout seul, et s'il a envie de parler, pas de problème.
Et s'il y a un problème?
Harold s'assit, posa son verre sur la table et inséra un magazin dans la crosse de l'automatique. Il lui tendit le pistolet et attendit qu'elle le prenne. Alors vous l'abattez. Vous l'abattez ainsi que toute personne se trouvant en sa compagnie.
Visez la tête. Tirez plusieurs balles si vous en avez le temps.
Il retourna à la porte, puis hésita. D'autres questions?
Non.
Harold entra dans sa chambre et ferma la porte. Maria Chen entendit le déclic du verrou. Elle resta assise un long moment, l'automatique dans ses mains, écoutant les échos de Gemütlichkeit qui lui parvenaient de temps en temps de la rue, tout en contemplant la mince bande de lumière jaune sous la porte de la chambre de Tony Harold.